Dites, vous la voyez, cette magnifique pyramide? Nous avons été tellement influencés par ces chefs-d'œuvre des Égyptiens que, maintenant encore, la plupart des organisations, qu'elles soient dans le secteur privé, public et je dirais même dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dès lors qu'il y a des salariés, eh bien nous avons été tellement influencés que c'est donc encore aujourd'hui la structure la plus classique des organisations, à savoir la structure pyramidale. Dans les années 2000, on a commencé à parler largement en France du stress au travail. Pour tout dire, le stress, ça ne date pas d'hier. Charlie Chaplin l'avait déjà évoqué dans son propre chef-d'œuvre, le film Les Temps modernes, et on peut bien imaginer, en remontant plus loin, que celles et ceux qui ont construit ces fameuses pyramides devaient avoir aussi forcément des bonnes raisons de stresser. Quand on a commencé à parler du stress au travail, il s'agissait du stress des salariés. Plutôt dans le secteur privé, et quand je dis salarié, je veux dire salarié du bas de la pyramide. Disons-le tout de suite, et on ne s'en souvient pas forcément, mais à cette époque, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il a fallu batailler pour s'entendre au niveau des partenaires sociaux sur le fait que le stress pouvait être causé ou amplifié par la vie au travail. Ce sujet, bien évidemment, n'est pas franco-français, et en 2004, un accord européen est signé sur le stress au travail, les pays étant invités chacun à décliner cet accord. En France, il a fallu attendre fin 2008 pour qu'un accord national interprofessionnel soit signé sur le sujet. Accord qui a, ma foi, produit peu d'effets, malgré l'injonction et les menaces de Xavier Darcos, ministre du Travail de l'époque. C'est à peu près à cette époque qu'on a commencé à dire que le stress, ce n'était pas que pour les salariés du bas de la pyramide, mais que les managers de proximité pouvaient, eux aussi, être soumis à des facteurs de stress. En 2010, une enquête laissait à penser que les managers de plus haut niveau étaient eux aussi très touchés par le stress. On a surtout parlé de stress jusqu'en 2010. On a commencé alors à beaucoup entendre parler d'un autre concept, les RPS, les risques psychosociaux, avec d'autres accords signés par les partenaires sociaux, par exemple sur la violence et le harcèlement. En 2010 toujours, on a évoqué un autre concept plus positif, le bien-être au travail, grâce au rapport dit Lachman-Larose-Pénicaud. En 2012, de leur propre chef, les partenaires sociaux décident de négocier avec une vision plus positive en reliant le bien-être des individus et la performance. Ils retiennent la terminologie « qualité de vie au travail », font un travail de conceptualisation avec l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, dont ils sont partie prenante. Ils négocient et produisent en 2013 un accord sur la QVT et l'égalité professionnelle, précisément le 19 juin 2013. En 2014, un autre concept fait parler de lui, le burn-out. Et là, aux autres niveaux de la pyramide déjà évoqués, s'ajoute le haut de la pyramide. Oui, le haut de la pyramide serait aussi en prise avec le stress, les RPS, le burn-out. On en vient à reconnaître enfin qu'il s'agit d'un problème qui n'épargne aucune fonction, aucun statut, bref, aucun étage de la pyramide. En 2014 est créé l'Observatoire à Maroc sur les risques à la santé psychologique des dirigeants. Selon cet observatoire, chaque jour en France, deux dirigeants de PME se suicident. La tendance depuis 2015, c'est une montée en puissance de la QVT, amenée à se substituer à l'approche RPS. Concernant le burn-out, c'est un sujet en pleine actualité puisqu'un mouvement appelle à la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. En 2015, propulsé par un documentaire sur Arte en février de cette année-là, le concept de bonheur au travail a pris de l'ampleur avec une fonction qui émerge en 2016 dans la nouvelle économie, le Chief Happiness Officer. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux pour les individus, les organisations et la société tout entière ? Premièrement, l'appropriation par chacune et chacun de sa propre QVT, quelle que soit sa place dans la pyramide. en souhaitant par ailleurs que la structure pyramidale puisse faire place à des structures tout aussi magnifiques, mais qui seront plus plates, plus démocratiques, plus participatives. Que chacune et chacun puisse penser et agir dans le sens « c'est ma QVT, c'est ma vie, il faut que je prenne soin de moi et j'ai envie de prendre soin de moi et de m'épanouir dans mon travail ». Deuxièmement, la symétrie des attentions. C'est quoi et ça sert à quoi ? Revenons sur la face sombre de la pyramide. Quelle est la particularité sur la façon d'aborder le stress, les RPS, le burn-out ? Eh bien, bien souvent, on se heurte à de la comparaison biaisée. Je m'explique. Je vais comparer les côtés difficiles de mon job avec les côtés avantageux et je dirais même outrageusement avantageux des conditions de travail des autres. Ou si vous préférez, mes raisons de stresser sont largement plus légitimes que les tiennes, alors s'il te plaît, arrête de te plaindre, c'est totalement indécent. Alors franchement, ça n'est pas étonnant qu'on ait du mal à coopérer dans ces conditions pour avancer. C'est quand même super compliqué, surtout si on va commencer à chercher des responsables, voire des coupables. C'est quoi donc cette contre-proposition de symétrie des attentions ? C'est de porter attention aux autres et d'en prendre soin comme eux-mêmes le feront avec nous. Et ceci dans toutes les directions. Avec les pairs, c'est-à-dire les collègues, avec les équipiers, et aussi ce qui semble peu naturel dans une structure pyramidale, vers le haut. Il s'agit bien donc de partir de ma QVT, puis d'embrayer immédiatement sur ta QVT. Et quand on arrive à faire ça, alors on peut s'attendre à être beaucoup plus efficace pour faire quoi ? Pour coopérer. Et coopérer, c'est ce qui va nous faire évoquer notre QVT. Mais attention, évoquer notre QVT entre les murs étroits, si vous me permettez, de sa propre organisation, ça n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'une organisation, c'est un organisme vivant au sein d'un écosystème. Il y a donc interdépendance avec plein d'autres organismes, ne serait-ce que les clients, les usagers, les fournisseurs, les partenaires. Ce qui va donc donner d'autant plus d'efficacité à l'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est de penser global, d'être aussi dans la symétrie des attentions avec l'extérieur. C'est exactement le sens de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le préalable de l'accord national interprofessionnel sur la QVT. La QVT s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une RSE assumée. Et donc, nous arrivons effectivement à une vision globale, la QVT au sens sociétal. Chacun de nous étant donc investi sur ces quatre dimensions, premièrement, ma QVT, c'est-à-dire mon rôle pour m'approprier le concept de QVT et agir sur ma QVT. Deuxièmement, la QVT au niveau interpersonnel, c'est-à-dire porter intérêt et attention aux personnes que je côtoie au travail, qu'elles fassent partie de mon organisation ou qu'elles soient externes. Troisièmement, notre QVT, c'est-à-dire mon rôle de co-constructeur d'une meilleure qualité de vie au travail collectivement, avec cette idée forte et très importante que la QVT est un levier de la performance. Et quatrièmement, la QVT, c'est-à-dire mon rôle de citoyen pour améliorer la QVT au niveau sociétal, par exemple à travers mon vote aux élections, et au quotidien à travers mes actes de consommation. Alors ce que je vous propose, c'est tirons ensemble les fils de la QVT et tricotons-la.